Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Édouard Geffray, qui est le directeur général de l'enseignement scolaire, est là avec nous. Vous allez pouvoir lui poser vos questions. Marie Guerrier, qui est responsable de l'éducation nationale sur RTL, d'une certaine manière.
C'est un bien gros mot, quand
même. Beaucoup, quand même. On peut le dire. Donc, vous allez participer à ce quart d'heure avec monsieur Geffray. On va pas faire de rappel des titres parce que les auditeurs vont pouvoir dialoguer avec monsieur Geffray, mais on va prolonger la question que vous posiez, Amandine. Vous avez dit 90% tout à l'heure des profs sont vaccinés. Il y en a 10% qui ne sont pas vaccinés. Cela, c'est sans doute parce qu'ils ne veulent pas l'être. Et au fond, vous voulez pas aller peut-être au combat, quand je dis vous, l'éducation nationale, pour ne pas faire un bras de fer et ne pas faire de vagues.
Non, je crois que c'est pas l'idée. L'idée, c'est que la vaccination obligatoire a été retenue lorsque un certain nombre de paramètres le justifiaient. On a parlé tout à l'heure des soignants avec des publics très vulnérables. J'ai exposé quelques paramètres qui me semblent avoir été pris en considération pour considérer que c'était pas obligatoire de se faire vacciner.
Mais pas beaucoup convaincu. Quand même.
Les Français, en tout cas, ils sont favorables.
Mais si je puis me permettre juste un des messages, je ne crois pas que la lâcheté soit ce qui caractérise le ministre de l'Éducation nationale.
Bah, vous n'êtes pas allé au contact. On peut le dire comme ça.
Bon, vous n'êtes pas allé au combat. Il y a un certain nombre de règles. Enfin, moi, une fois encore, je ne suis pas épidémiologiste. Hein, mais enfin, quand vous avez des médecins et des professionnels de santé qui considèrent que la vaccination doit être obligatoire dans certains cas, qu'elle n'a pas besoin d'être obligatoire dans d'autres, avec une fois encore un taux de couverture des professeurs qui est quand même très important en termes de vaccination, moi, j'ai tendance à suivre leur avis. Mais
Je vous rappelle que pour prendre un café en terrasse, je dois avoir un pass sanitaire et qu'un prof qui est en contact avec des enfants toute la journée n'est pas obligé d'avoir un pass sanitaire.
Et celui qui proposait ça sur RTL ce matin était épidémiologiste connu dans le monde entier, enfin Antoine Flahault.
Ils ont un point de vue assez différent, comme vous le savez.
Amandine, il est 13h02. Oui. C'est une journée particulière pour vous. Et il faut le dire aux auditeurs, parce qu'il n'y a rien de plus important que la rentrée d'un de ses enfants.
Et oui, et moi j'ai mon fils qui rentre en CP à 14h.
Donc vous allez y aller.
Donc j'y vais.
Oui. Donc, bon, alors il est 13h02, j'espère que l'école n'est pas...
C'est le masque des 6 ans en CP pour apprendre à lire, tout ça, c'est un peu compliqué. Monsieur Geffray, ça va s'arrêter quand, ça?
Ah bah écoutez, le port du masque, bien malin celui qui pourrait vous dire quand ça va s'arrêter. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que l'année dernière, il y avait déjà des enfants en CP ou en CE1, etc., qui portaient le masque, et que quand on regarde leurs résultats, ça les a pas empêchés d'apprendre à lire, heureusement. Donc soyez confiante pour lui et bonne rentrée surtout.
Merci beaucoup.
Comment il s'appelle
Gabriel.
Gabriel. Bah écoutez, vous savez, il rentre en CP, hein, vous avez dit. C'est une rentrée très importante en CP, bien évidemment. Il est 13h02.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et Marie Guerrier pourra bien sûr intervenir dans ce débat puisqu'elle connaît précisément ces dossiers. On est avec Cyril qui est proviseur dans un lycée dans le Loiret. Bonjour Cyril.
Bonjour Pascal, bonjour Marie, bonjour monsieur le directeur, bonjour aux auditeurs.
Une question peut-être pour monsieur Geffray ou peut-être un avis sur ce qui s'est passé ce matin chez vous.
Ah bien, écoutez, nous sommes tous très enchantés de réaccueillir en présentiel nos élèves. Nous avons ce matin nos 450 élèves de seconde qui sont présents dans l'établissement pour une journée qui leur est consacrée, spécifiquement pour un accueil personnalisé. Et tout s'est très bien passé. L'éducation nationale pourra faire sienne le slogan de la radio RTL, revivre ensemble. Voilà.
Est-ce que c'est le sentiment que vous avez, monsieur Geffray? C'est ce qui vous remonte ce matin de toute cette rentrée?
Alors, c'est un sentiment complètement partagé. Et je trouve ça en plus important de le dire comme ça. Donc merci, monsieur le proviseur. Parce que on oublie parfois, la beauté qu'il y a à avoir 12 millions d'élèves qui apprennent le chemin de l'école avec les petites appréhensions, les joies, on retrouve les copains, on apprend, etc. Et donc voilà, c'est bien aussi de rappeler que c'est pas parce qu'il y a un protocole sanitaire qu'on ne vit pas ça à fond au service de la société.
Toutes les écoles ont rouvert aujourd'hui, tous les profs étaient là, Marie Guerrier.
Tous les profs étaient là, l'école dans laquelle j'étais ce matin, on parlait des profs vaccinés, c'était une école maternelle avec une dizaine d'enseignants, tous vaccinés, et qui se sont vaccinés même assez vite dès le début de l'été.
Oui, parce qu'ils étaient plutôt demandeurs, en fait.
Ils étaient demandeurs, d'autant que, évidemment, en maternelle, les enfants ne portent pas de masque. Donc, voilà, c'était assez clair dans leur esprit, et ils se sentaient plutôt sereins pour cette rentrée.
Alors, moi, j'ai envie quand même qu'il y ait des questions, et merci Cyril, hein, bien sûr, mais Benoît a une question, parce qu'il est prof de maths, il est en lycée. Bonjour Benoît.
Bonjour Pascal.
Question pour monsieur Geffray.
Monsieur Geffray, j'ai adoré entendre tout à l'heure votre réalité territoriale de l'épidémie, sachant que le protocole est national. Je voudrais savoir quels sont les indicateurs qui vous permettent de décider le niveau du protocole dans lequel les établissements scolaires sont baignés, parce qu'on sait qu'on est en protocole orange, au niveau 2, mais est-ce qu'on a des indicateurs significatifs qui permettent de passer de vert à orange, de orange à jaune, parce que peut-être que la différence est ténue.
Alors, aujourd'hui, donc effectivement, peut-être d'abord pour les auditeurs, rappeler qu'il y a quatre niveaux hein, de protocole, c'est-à-dire qu'ils vont de vert, jaune, orange et rouge. Aujourd'hui, on est en jaune, on est au niveau 2. Donc c'est un niveau dans lequel les établissements, donc les écoles sont tous ouverts et les élèves sont en présence. On est au niveau 2 en métropole. Je rappelle justement que pour des raisons qui tiennent aux différents indicateurs sanitaires, aux Antilles, les écoles n'ont pas encore ouvert. Hein. Il y a eu un report de la rentrée. Donc il y a bien une adaptation. Ensuite, donc on tient compte évidemment de la situation épidémiologique qui est notamment à travers le taux d'incidence. Qui est évidemment important. Et puis, j'allais dire, la troisième étape, elle se conjugue au niveau vraiment de l'école et établissement. Et c'est là qu'il y a des mesures qui peuvent être prises au niveau de l'école et établissement, par exemple, de fermeture de classe. C'est ce qu'on nous disait tout à l'heure. C'est-à-dire que quand il y a un cas, dans le primaire, il y a une fermeture de classe. Quand il y a un cas dans le secondaire, cette fois-ci, c'est l'élève qui reste à la maison pour pouvoir apprendre. Donc, c'est effectivement un grammage assez fin. Ça s'analyse aussi avec évidemment, les autorités sanitaires, les autorités préfectorales, les autorités sanitaires, hein, qui sont, j'allais dire, les premières en première ligne pour apprécier la situation, mais c'est l'ensemble de cette configuration-là qui conduit les différentes parties prenantes à prendre des décisions de modulation du protocole le cas échéant.
Benoît, est-ce que vous êtes content de cette réponse ?
Comment voulez-vous, Pascal, que je sois content de cette réponse ? Est-ce que vous croyez que c'est simplement l'idée que oui, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, on est en rouge, et chez nous, on est en orange, et on n'a pas l'explication concrète. Mmh. Vous savez, je suis prof de maths, je suis assez ciblé sur les chiffres, et voilà, de même que tout à l'heure, quand vous dites 90% des professeurs sont vaccinés, j'aimerais bien qu'on dise, on a fait un sondage et on sait que on estime que 90% des professeurs sont vaccinés. Moi, je vais reprendre lundi avec une classe de seconde. On sera 34 plus le prof dans une salle de 36. J'espère que parmi les lycéens de seconde que j'ai, ils seront tous vaccinés, ce qui va nous permettre de continuer allègrement de faire des mathématiques et avec plaisir. Mais que
bon, vous n'êtes pas convaincu manifestement par le protocole, c'est ce que j'entends. Vous souhaitez, vous trouvez que le protocole est trop dur. C'est ça que vous voulez dire.
On a annoncé que dans mon établissement qui accueille 31 classes de la seconde jusqu'au BTS deuxième année, on a un seul capteur de CO2 pour tout l'établissement scolaire. Ça me rappelle un peu les détecteurs d'examen, de fraude aux examens. On se baladait dans les rangs des examens avec un truc qui faisait bip bip. Et en fait, on se demandait si ça marchait ou pas. Là, c'est un capteur de CO2.
D'accord, mais vous trouvez que le protocole est trop rude. C'est ça le sens de votre intervention.
Le protocole est trop rude. Non, le protocole, il est. On n'a aucune base sur comment on fait cours, voilà, enfin du style. Pourquoi prend-on toute la classe ?
D'accord. Mais en même temps, vous trouvez qu'il est trop dur ou pas assez dur ?
Trop strict, vous savez, ça fait quand même 18 mois qu'on porte un masque. Je viens de faire une année scolaire complète avec des élèves face à moi. J'ai à peine découvert leur visage.
J'entends bien, mais j'arrive pas à savoir le fond de votre pensée. Vous trouvez que c'est plutôt que ça se comprend ou qu'au contraire, c'est trop strict ?
Il est parfois incompréhensible quand on le compare à d'autres pays.
Merci en tout cas Benoît. Ça va être intéressant, Pascal, de continuer la discussion. On va être avec Sarah dans une seconde. Et puis vraiment, je remercie Édouard Geffray de jouer le jeu avec nous. A tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Édouard Geffray est avec nous, il est directeur général de l'enseignement scolaire. Vous savez qu'on reproche souvent à ceux qui dirigent d'être coupés de la réalité. On vous fait le procès d'être des représentants de la haute administration et de ne pas savoir précisément ce qui se passe sur le terrain. Alors j'ai vu que vous étiez passé par l'ENA par exemple, mais est-ce que vous êtes passé dans une classe comme prof ?
Alors, pas dans une classe du premier ou du second degré. J'ai donné des cours post-bac, mais j'ai donné quelques centaines, voire milliers d'heures de cours, oui. Mmh. Et puis, vous savez, quand on vit... d'abord, quand on travaille au ministère, on travaille avec d'autres gens, et notamment avec des professeurs et des acteurs de terrain qui nous aident d'ailleurs à faire ce qu'on fait. Et puis ensuite, on n'est pas complètement déconnecté, parce que soi-même, on peut avoir des enfants, on peut habiter...
Oui, mais c'est pas la même chose d'être exposé au contact monde, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, d'être prof dans une école. On pourrait imaginer que le directeur général de l'enseignement scolaire ait été un prof de maths, un prof de français ou un prof d'histoire.
On peut imaginer qu'il a enseigné le droit, par exemple, aussi, en l'occurrence, mais tout est possible.
Alors, Jeanne est avec nous. Et Jeanne, elle est adjointe au maire et elle est déléguée à l'école municipale et elle a peut-être une question pour M. Geffray. Bonjour Jeanne.
Bonjour Pascal, bonjour M. Geffray. Je voulais vous demander, il y a beaucoup de coûts qui sont à la charge des communes, justement pour le fonctionnement des écoles. dont les purificateurs d'air, pardon, dont la masse salariale des agents d'entretien qu'on a été obligé de remettre en place parce que il y a un protocole sanitaire à respecter. Tout ça a un coût. Est-ce qu'il peut, quelques mairies peuvent prétendre avoir des aides sur tous ces achats, sur tous ces masses salariales qui sont très très importantes depuis quelques années maintenant.
Monsieur Geffray, est-ce que l'État va payer les purificateurs d'air ?
Alors, d'abord, pour les purificateurs d'air ou les capteurs de CO2, effectivement, on est à la charge des, c'est à la charge effectivement des mairies pour les écoles, etc. Donc ça, c'est une première chose. Alors, il y a eu des efforts qui ont été évidemment faits. Alors, en l'occurrence, les derniers gros efforts ont été faits notamment sur le volet numérique, puisque dans le cadre du plan de relance, il y a plusieurs dizaines de millions, même centaines de millions d'euros qui sont affectés pour aider les écoles justement à s'équiper en matière numérique, etc., à s'équiper ce qu'on appelle des ENT, des espaces numériques de travail pour les élèves. En revanche, c'est vrai qu'à ce stade, sur capteur ou purificateur d'air, on est dans, entre guillemets, l'équipement des établissements ou des écoles. Et donc, à ma connaissance, en tout cas, c'est aujourd'hui pris en charge par les collectivités.
Jeanne, satisfaite de cette réponse ?
Ben écoutez, on va faire avec dans tous les cas. Je me dis que l'aération des salles n'est peut-être pas plus mal aussi avant de pouvoir poser tous ces outils-là. Donc au maximum, aérer les classes.
C'est vrai qu'il faut aérer.
C'est la mesure en fait principale même. Hein. Un capteur de CO2 dit juste quand il faut aérer. Mais si on aère régulièrement, c'est quand même ça qui protège, c'est pas le capteur.
Merci. Là, donc aujourd'hui, ils vont aérer.
Merci Jeanne. Sarah, une question à vous poser. Sarah qui habite Avignon. Sarah, vous êtes une maman peut-être de enfants qui sont au collège ou en lycée aujourd'hui ?
En primaire. Bonjour
en primaire.
Pascal.
Bonjour
Geoffrey.
Bonjour.
En primaire. Alors moi j'ai une question, je dirais peut-être, qui n'a rien à voir avec le Covid, mais... alors moi j'ai plus une remarque, enfin une question et une remarque. Pour moi, l'école est l'endroit qui doit être le plus égalitaire. Maintenant, en France, en 2021, on se rend compte encore que les enfants d'ouvriers ont 4 ou 5 fois moins de chances de finir ingénieur ou plus ou docteur qu'un enfant d'ingénieur ou de docteur. Donc j'aimerais savoir ce que vous pouvez faire en 2021 pour changer cela, parce que rien n'a changé, rien n'a avancé. Et voilà.
Réponse de Monsieur Geffray.
Alors, il faudrait que j'ai 10 minutes, mais je crois pas que je les ai. Mmh. Mais les choses bougent, madame, et je peux vous garantir que c'est un combat non seulement quotidien, mais extrêmement porté. Je vous prends juste un exemple. Très vite, mais quand même intéressant. Je suis le parcours d'un élève. Depuis 2019, instruction obligatoire à 3 ans. Pourquoi ? Parce qu'entre 3 et 6 ans, c'est là que se construit la diversité du langage et qu'il y avait 30 000 élèves qui n'allaient pas à l'école en France entre 3 et 6 ans et qui par conséquent prenaient du retard. Dédoublement des grandes sections CP, CE1 en éducation prioritaire et plafonnement à 24 élèves par classe pour tous les autres. Ça fait que quand on regarde les évaluations des élèves progressent. Il y a des élèves qui aujourd'hui viennent à l'école, enfin qui malheureusement, sans avoir mangé le matin ou quasiment pas. On a lancé un programme petit déjeuner, il y a 250 000 bénéficiaires l'année dernière, on va encore augmenter cette année. Quand on arrive au collège, et ça c'est un point important, notamment pour j'allais dire des milieux qui sont peut-être moins favorisés et donc parfois moins informés sur la diversité des parcours, on travaille beaucoup sur comment finalement ouvrir l'ambition au sens propre. L'ambition, c'est regarder autour, donc c'est comment élargir l'ambition des élèves. Et on a lancé un truc qui s'appelle les cordées de la réussite. Enfin, on a dynamisé quelque chose qui s'appelle les cordées de la réussite. On a, pour vous donner une idée, 200 000 jeunes qui aujourd'hui ont un mentor d'une grande école, d'un professionnel, etc., qui est là justement pour les aider à trouver un stage et compagnie. Et donc aujourd'hui, on se donne les moyens. Je pourrais continuer comme ça parce qu'en fait, on a fait ça tout du long de 3 à 18 ans. Hein. C'est-à-dire que à chaque fois, vous êtes pris potentiellement en charge avec un dispositif qui vous accompagne, qui vous pousse, avec les internats d'excellence par exemple, où si vous êtes boursier échelon 5 ou 6 aujourd'hui, le rehaussement des bourses fait que vous êtes pris en charge à 100%, c'est-à-dire que vous pouvez aller en internat d'excellence sans que ça coûte 1 euro à votre famille, concrètement. Pourquoi ? Pour que justement des jeunes qui sont issus de milieux moins favorisés ou défavorisés puissent réussir comme les autres. C'est la promesse, hein. Enfin, je veux dire, on est là pour, enfin, c'est important parce que c'est ce qui nous fait vivre.
Sarah,
on est là pour ça.
Est-ce que vous êtes satisfaite là encore ? Question rituelle.
Alors la réponse évidemment est satisfaisante, mais les résultats sont toujours les mêmes. Les enquêtes qui sortent tous les ans, ou tous les 2 ans, sont toujours les mêmes. Donc.
C'est plutôt tous les 3-4 ans et ça va. Honnêtement, avec tout ce qu'on fait, je pense vraiment que les prochaines, dans 2-3 ans, parce qu'il faut des effets de cohorte. Mais je pense vraiment qu'on va avoir le résultat et en tout cas on se bat pour.
Vous restez encore quelques secondes avec nous.
Il y a une très forte autocensure encore hein, oui. chez les jeunes, on le remarque, les jeunes en milieu rural, les jeunes qui viennent de banlieue, en fait qui n'osent pas se lancer, qui se disent c'est pas pour moi, qu'est-ce que je vais aller faire là, les autres sont meilleurs, et puis c'est trop cher. Et, voilà. Et en fait, il y a toute une mentalité à faire évoluer de ce côté-là. Il y aura des associations hein, qui travaillent là-dessus auprès des jeunes pour oser, en fait, au moins franchir le pas, parce qu'ils ont des résultats scolaires tout à fait corrects et qui peuvent même être très bons, mais oser.
On va marquer une pause. On remercie Monsieur Geffray d'être venu avec nous parce que c'était très intéressant de se livrer au jeu des questions et des réponses. Je vais garder Marie quelques instants encore parce que c'est la rentrée. Donc c'est un privilège que nous avons. Il est 13h18. Je vous remercie. Bonne rentrée à vous.
Merci vous aussi.
Vraiment, bonne rentrée. Vous avez des enfants peut-être ?
Oui, absolument.
Ah, vous en avez combien ?
5.
5 enfants.
C'est pour ça que je me sens vaguement concerné aussi par l'école comme vous demandez ce que j'ai vécu.
Vous êtes jeune pour avoir 5 enfants. Vous avez 42 ans.
Écoutez, oui.
Et alors, tous ces enfants sont à l'école ?
Il y a des niveaux différents, forcément.
Bon, ils sont tous rentrés ce matin ?
Oui, et on a assuré ça.
Bon, et vous avez le choix ? Vous les mettez dans des collèges ou dans des lycées que vous choisissez ou c'est la carte scolaire ?
Ils sont chez moi, dans ma banlieue natale, comme tout le monde.
Comme tout le monde. Merci, bonne rentrée à eux, évidemment. 13h18, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Je salue Laurent Tessier.
Bonjour.
Et on va pouvoir débriefer ensemble, même avec Marie, ce que disait Monsieur Geffray. Il y a pas mal de questions des auditeurs. Que nous dit-on sur les réseaux ?
C'est un jour important, c'est aujourd'hui la rentrée. 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école avec un masque sous le nez. DLCP, vous l'avez dit, invité exceptionnel de RTL Midi et des auditeurs ont la parole. Le numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, l'homme qui a organisé la rentrée de vos enfants. Nos écoles sont ouvertes, mais jusqu'à quand ?
Écoutez, j'espère que ça va durer le plus longtemps possible et même définitivement, puisque c'est quand même ça l'objectif. Par exemple, prenons le cas de la Réunion, puisque la Réunion a rouvert il y a 15 jours, c'est intéressant.
Oui, bon, pour nous, la rentrée scolaire.
Et avec des indicateurs, etc., qui sont assez comparables à ce qu'on peut connaître dans beaucoup de départements de métropole, on est sur moins de 0,2% des classes qui sont fermées. Donc on reste sur quelque chose de très marginal.
Parents, enseignants, directeurs d'école, chefs d'établissement, nous vous attendons au 3210. Quelles sont vos inquiétudes ? Le protocole sanitaire est-il suffisamment clair pour vous ? Craignez-vous des fermetures de classes rapidement ? Nous attendons vos avis, vos témoignages dès maintenant au standard.
Et puis on pourra parler d'autres choses jusqu'à 14h30. On pourra parler d'ABBA, notamment.
La fameuse danse de Pascal.
Non mais ça c'est magnifique.
Tout à l'heure vous avez très bien chanté Waterloo.
Non mais c'est magnifique là. Parce que pour la première fois depuis 40 ans, il y a un titre d'ABBA qui sort aujourd'hui. Il va être diffusé à 19h. On sera avec Eric Jean-Jean d'ailleurs, mais Dancing Queen. On l'a entendu 12 millions de fois. Et vous l'écoutez et immédiatement ça vous met dans une certaine atmosphère. On devrait tous se réveiller le
comme
matin.
Comme Gimme Gimme. Hein. Avec,
mais alors Dancing Queen, je préfère encore. Bon, Marie est avec nous. Christine, Marie Guerrier, est restée avec nous. Mais Christine est là, qui est secrétaire directrice d'un collège. Où ça, Christine ?
Alors, je suis pas secrétaire directrice, je suis secrétaire de direction dans un collège dans le Maine-et-Loire, un collège qui va accueillir 667 élèves, dont deux classes, avec des élèves en situation de handicap.
Depuis combien de temps vous êtes là-bas ?
Oh, j'ai fait ma 15e rentrée.
Bon, vous êtes contente ?
Ah oui, tout à fait, oui.
Vous êtes heureuse. Vous aimez être au contact des enfants, des adolescents ?
Ah ben ça c'est ma raison de vivre, oui. Je pourrais pas être derrière dans mon bureau à faire de la comptabilité. Ce que j'apprécie dans mon travail, c'est les relations avec les élèves, avec les familles, avec mes collègues d'autres établissements, avec tous les partenaires avec qui on peut travailler, oui, tout à fait.
Vous avez le sentiment de les aider parfois ?
Ah ben bien sûr, et de les accompagner. Je suis très heureuse quand les élèves de troisième partent, qu'on arrive à trouver des solutions d'orientation pour eux.
Ils vous remercient parfois, même quelques mois ou quelques années plus tard.
Oui, puis c'est remercier soit en direct, soit c'est quelques années plus tard, c'est les élèves, c'est les parents. Oui, tout à fait, oui. Le fait d'être depuis très longtemps dans ce collège m'a permis de créer des liens avec les familles.
Marie Guerrier, ce qui est frappant, je vous ai écouté depuis deux jours, il y a beaucoup de témoignages, un peu comme celui de Christine. Tous les gens qui travaillent dans l'éducation nationale, et vous le disiez tout à l'heure, ont le feu.
La vocation. C'est ce que me disait une professeure de français que j'ai rencontrée récemment. Voilà, elle se sent portée par la vocation. Mais je pense que c'est nécessaire, parce que c'est un métier évidemment difficile. Mmh. De plus en plus difficile, disent les enseignants, alors pour des tas de raisons différentes. Et notamment, là, une raison qui est avancée de plus en plus, c'est les écrans. Les élèves sont devant des écrans et ils ne sont plus forcément le goût du travail, le goût de l'effort. Et donc, tout ça, les enseignants vont chercher avec les gens.
J'entendais ça quand j'avais 10 ans.
Les écrans
Non, vous n'avez plus le goût du travail.
Donc vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut toujours remettre sur le tapis. Donc les enseignants, oui, ils sont là.
Mais les écrans ne sont pas dans les classes quand même. T'as pas le droit.
Mais dès qu'ils sortent,
on est d'accord.
Voilà.
Ça, par exemple, on a beaucoup parlé du protocole sanitaire et je le demande aussi à Christine. On est d'accord qu'il n'y a pas de téléphone dans une classe, Christine.
Non, les téléphones des élèves, c'est dans le règlement intérieur. Oui. Ils doivent être éteints à l'entrée du collège. Si jamais un élève est surpris avec son téléphone, il est confisqué et c'est les parents qui viennent le chercher après.
Et même à la récréation.
Même à la récréation, bon, oui, tout à fait.
C'est récent, hein, ça a été décidé il n'y a que deux ou trois ans, ça. Avant,
oui,
dans les collèges, en fait, chaque collège avait son règlement intérieur, donc pouvait très bien y avoir l'utilisation du portable dans la cour, ça arrivait. Et là, ça a vraiment changé. Dans les collèges où il y avait le téléphone portable et il n'y a plus, d'autres relations se sont à nouveau nouées dans la cour de récréation. Au lycée, en revanche, on peut avoir son téléphone.
Christine, comme vous êtes secrétaire, vous connaissez tout ce qui se passe dans votre collège. Nous sommes d'accord.
Je connais beaucoup de choses,
bon,
oui.
Par exemple, quand on donne les emplois du temps, est-ce qu'il y a des profs qui viennent se plaindre ?
Non, parce qu'à partir du moment où s'établit une bonne relation, parce que les emplois du temps sont faits avec l'équipe de direction, les professeurs font des vœux. La direction essaie, mais la priorité est toujours mise sur les élèves, hein, on est là pour les élèves, mais quand on peut respecter les demandes des professeurs, il n'y a pas de souci. Là, on a fait la pré-rentrée hier, il n'y a aucun professeur qui est venu voir les chefs d'établissement.
Il y a 600 élèves, avez-vous dit. Généralement, c'est 30 élèves par classe, donc ça fait 20 classes à peu près chez vous.
Alors, en sixième, le maximum d'élèves, le seuil qu'on appelle, c'est 28 élèves. En cinquième, en quatrième et troisième, c'est 30 élèves maximum.
C'est pas mal, ça, par exemple, Marie Guerrier. C'est respecté dans toute la France, là ?
Alors, en collège, oui, à peu près. Là où il y a un vrai gros problème d'effectifs dans les classes, c'est en lycée. On se retrouve vraiment avec des classes à plus de 30.
C'est
compliqué. Parfois, dans des enseignements de spécialité, désormais, vous savez comment est organisé le lycée, on va voir des enseignements de spécialité à 34, 35. Là, ça devient plus compliqué.
Christine, vous avez parlé d'enfants handicapés également que vous accueillez.
Oui, tout à fait. Soit handicapés physiques ou soit des élèves qui ont des retards intellectuels, tout à fait. Et qui sont encadrés, donc à effectif réduit.
Mais alors, ils sont dans
AESH.
Voilà, mais ils sont en sixième, cinquième, par exemple, lorsque vous parlez d'enfants qui sont en difficulté intellectuelle, comment ça se passe ?
Alors, c'est sur les quatre niveaux, ils ont une classe de rattachement, une classe où il y a 12 élèves, et selon leur capacité et leur niveau, ils sont intégrés dans les classes dites ordinaires et sur certaines matières.
Et on rappelle que l'aide de vie scolaire n'est que jusque la troisième, on peut le regretter d'ailleurs, parce que c'est formidable l'aide de
pas
vie scolaire.
Pas du tout.
Ah, l'aide de vie scolaire, c'est jusqu'au bac maintenant ?
Ça peut être prolongé, bien sûr. Oui.
C'est très très bien. Je pensais que l'aide de vie scolaire s'arrêtait parfois au lycée, qu'elle était très fréquente au collège, mais qu'après c'était plus compliqué, mais tant mieux. Tant mieux,
non,
Christine.
Les dossiers des élèves sont étudiés à la MDA, la maison de l'autonomie.
Bien sûr.
Et les heures sont attribuées après en fonction des besoins de l'élève.
Merci beaucoup, Christine. C'est la rentrée scolaire. Marie reste encore quelques secondes avec nous. Et puis, il y a beaucoup de témoignages qui arrivent. Donc, ça va être intéressant encore de vous écouter. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
13h31, nous sommes avec Laurent Tessier.
Le retour à l'école pour 12 millions d'élèves, toujours avec cette ambiance du Covid-19. Et tiens, un sujet a été posé sur la table ce matin sur RTL par l'épidémiologiste Antoine Flao.
Aujourd'hui, on n'a pas homologué le vaccin avant 12 ans. Donc on ne peut pas vacciner les moins de 12 ans, mais au moins qu'on vaccine toutes les personnes qui sont en contact avec les moins de 12 ans. On dit en France, par exemple, que la vaccination est obligatoire pour les personnels soignants qui sont en contact avec des gens vulnérables, parce qu'ils sont en contact avec des gens vulnérables. C'est la même chose pour les enseignants du primaire. Ils sont en contact avec les personnes les plus vulnérables de notre société, puisque ce sont les seuls qui ne peuvent pas du tout être vaccinés. Alors, donc ceux-là, ils devraient être vaccinés.
Alors, faut-il vacciner toutes les personnes en contact avec les moins de 12 ans? La question ne se pose pas pour plusieurs raisons. Selon Édouard Geffray, le numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale, entre 85 et 90% des professeurs sont vaccinés. Autre argument tout à l'heure dans RTL Midi.
Pour l'instant, en tout cas, jusqu'à présent, le Covid a toujours moins touché les petits et de manière moins forte. Donc, on n'est pas dans une même logique de vulnérabilité. C'est pas le même type de vulnérabilité que celle dont on parle quand on parle, par exemple, de gens qui sont à l'hôpital, qui ont des complications, des comorbidités, etc.
Faut-il vacciner toutes les personnes en contact avec les moins de 12 ans? Parents, qu'en pensez-vous? Nous attendons dès maintenant vos avis au 3210 3210.
Bah, Katia, manifestement, un avis. Elle est professeure d'anglais. Elle habite Nancy. Bonjour, Katia.
Bonjour.
Quel est votre avis?
Eh bien, écoutez, moi, je suis de l'avis de la personne du ministre, du sous-ministre, on va dire. Lui, il pense que c'est pas la peine.
D'abord, sous-ministre, je ne suis pas sûr qu'il apprécierait qu'on l'appelle comme ça, mais c'est un directeur général, donc c'est un haut fonctionnaire.
Mais
lui, il a été très habile, et c'est normal, il est habitué à répondre à cela. La vérité, c'est qu'il y a une forme d'incohérence, évidemment. D'un côté, on nous demande, et l'exemple que j'ai pris me paraît saisissant, on nous demande d'un côté d'avoir un pass sanitaire pour prendre un café en terrasse, et de l'autre, on ne demande même pas aux profs d'être à 100% vaccinés. La vérité, sans doute, c'est qu'il y en a 90% qui sont vaccinés, que les 10% qui ne veulent pas se faire vacciner, ça doit être des gens assez rétifs à la vaccination. Et je parle sous le contrôle de Marie Guerrier, on ne voulait pas commencer un bras de fer.
Alors, il y avait, on voulait pas braquer. Voilà, parce qu'imposer, c'est le risque de braquer une toute petite minorité pour le coup, parce que en effet l'essentiel c'est que un grand nombre d'enseignants soient vaccinés et c'est le cas. Alors évidemment on le dit pas comme ça. Alors vous disiez on a le pass sanitaire au café etc, on l'a pas à l'école. Alors la grosse différence c'est quand même que le professeur n'est pas en contact sans masque avec son élève qui est aussi masqué, donc les deux sont masqués, ce qui est la différence avec les endroits où le pass sanitaire s'impose où voilà potentiellement on n'a pas de masque.
C'est un argument en tout cas. Bon, Katia, vous trouvez dommage, en tout cas vous êtes prof, vous êtes vaccinée j'imagine si vous intervenez sur ce sujet, et vous trouvez dommage que les profs ne le soient pas tous.
Ah oui, moi je trouve que ça devrait être obligatoire, c'est clair et net, et ceux qui sont justement rétifs, comme vous dites, ceux-là, moi ils m'exaspèrent, pour ainsi dire. Je trouve que j'ai des collègues dans mon lycée qui ont refusé de se faire vacciner, et qui l'année dernière ont passé... depuis décembre, ils ne sont pas allés en cours de décembre jusqu'à la fin de l'année, sous prétexte qu'ils étaient à risque pour le Covid. Et dès qu'il y a eu le vaccin, ils ont refusé de le faire.
Alors, mais je ne comprends pas comment ils ont pu échapper à la présence à l'école. Ils se sont fait porter pâle?
Oui, voilà, ils avaient un certificat médical, donc leur médecin, qui était sûrement très complaisant, leur a dit vous êtes à risque, vous devez rester chez vous, faire cours à distance. Et puis c'était la débandade, quoi. Moi j'ai dû.
Mais
j'ai
c'est
dû,
beaucoup de professeurs, ça concerne.
Il y en a pas beaucoup, mais dans mon lycée, il y en a déjà au moins deux. Donc. Voire plus. Donc,
et vous trouvez que... Mais c'était juste ou pas? Parce que, est-ce que vraiment ils étaient en comorbidité? Est-ce que ça se justifiait, cet arrêt de travail? Cette manière de travailler, plus exactement?
Ben écoutez, moi je ne trouve pas que ça se justifiait, parce qu'en plus, il y a...
Mais vous n'êtes pas médecin, Katia, si
non,
vous
non,
me permettez.
Je suis pas médecin. Non, je ne connais pas leur truc, mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a une des collègues qui se permettait d'inviter des gens chez elle pour faire des ateliers artistiques et je ne sais pas quoi. Et donc, ça veut
vous
dire
avez raison, Katia,
pas...
on balance. On va pas aller jusqu'à dire son nom quand même, hein. On est d'accord.
Non, pas du tout. Mais je veux dire, moi, ça m'énerve parce qu'on pâtit de ces gens-là, quoi. Je veux dire, parce qu'après, ils ont une réputation, puis tout le monde est mis dans le même sac.
Bon, Marie, on va conclure sur cette séquence en vous remerciant d'ailleurs, hein, et même si on prendra ensuite, pourquoi pas, d'autres témoignages, parce que c'est un gros sujet que cette rentrée.
Peut-être que des enseignants se feront vacciner là dans les établissements scolaires, parce que ça concerne les élèves qui ne sont pas vaccinés, ça peut aussi concerner les enseignants. S'ils se décident, ils pourront se faire vacciner dans leur établissement scolaire ou à proximité, il y aura des créneaux.
Bon, on va savoir quand, si cette rentrée s'est bien passée, ces prochaines heures.
Ces prochaines heures, là, d'ici, on est jeudi, demain, mise en route. Tous les élèves ne reviennent pas en même temps, vous savez, c'est échelonné aussi. Un prof proviseur tout à l'heure qui disait que c'était que les secondes aujourd'hui, les premières vont venir demain. C'est à partir de la semaine prochaine qu'on va vraiment voir. Et d'ailleurs, le premier bilan de fermeture éventuelle de classe tombera vendredi de la semaine prochaine. Le ministère va reprendre voilà, ses bulletins hebdomadaires pour indiquer combien de cas dans les écoles, s'il y a des classes fermées.
Merci beaucoup Marie. J'ai pas salué, je crois, Damien Béchiot.
Ce n'est pas grave, Pascal, vous étiez occupé.
Et on se souvient bien évidemment de nos premiers jours d'école, odeur des pluies de mon enfance, dernier soleil de la saison à 7 ans, comme il faisait bon. Après d'ennuyeuses vacances, se retrouver dans sa maison, la vieille classe de mon père, pleine de guêpes écrasées, sentait l'encre, le bois, la craie, ces merveilleuses poussières amassées par tout un été. Ces lignes sont de René Guy Cadou, c'est un poète oublié mais vénéré, que nous apprenions jadis à l'école quand nous entrions en CP. Moi, j'ai connu l'encre violette, la plume sergent-major et même le scotch sur la bouche. Mais je ne l'ai plus, donc je reviens dans 2 secondes. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Et c'est l'une des nouveautés de l'année. Olivier, qui gère désormais la page Facebook, et essayez Olivier, celle l'adopter.
Oh.
Et vous allez l'aimer, chers auditeurs, comme nous l'apprécions depuis maintenant plusieurs saisons.
Bah merci beaucoup Pascal, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Jour de rentrée, aujourd'hui jour de rentrée scolaire. Et je voulais juste vérifier Pascal que vous ayez bien vos bases. Donc petite question historique. En quelle année a été proclamée la Troisième République ?
La Troisième République, c'est 1870
je pense. Exact, exact. Dernière question, autre date clé à connaître, c'est important. En quelle année est né le seigneur Laurent Tessier ?
83, 84, 85.
Ah bah c'est à peu près ça, c'est à peu près ça.
Bon, c'est
bravo,
à peu près ça.
Bravo, Pascal.
Il y a une question qui est toujours marrante qu'on pose. Quel est le premier président de la République? Ça c'est une question rigolote.
Vous me la posez là?
Bah oui, je vous la pose. Et en fait, c'est Louis-Napoléon Bonaparte.
D'accord.
Donc ça ne vient peut-être pas immédiatement à l'esprit, mais c'est Louis-Napoléon Bonaparte en 1848 avant le coup d'État de 1851.
Mais malheureusement, la seule date historique que j'ai en tête, c'est la naissance du roi Pascal Ier le 9 septembre 1964.
D'accord. Non, mais bon, on va parler des policiers, figurez-vous, parce que Emmanuel Macron était hier avec les policiers. Et c'est vrai que il est resté, c'était entre 20h et 21h. Je salue Eddy. Bonjour Eddy.
Bonjour Pascal.
Et on a vu ces images du président de la République au centre des policiers et il leur a dit un mot d'ailleurs qui m'a un peu étonné, il leur a dit « ne lâchez rien ». Et en entendant ce mot, j'avais envie de dire « mais les policiers ils ne lâchent jamais, c'est plutôt les politiques qui lâchent les policiers de temps en temps et qui n'ont pas toujours le courage nécessaire ». Je voudrais savoir, Eddy, vous qui êtes policier, si les interventions multiples du président de la République auprès des policiers vous ont convaincu.
Ben, c'est réconfortant. Il ne manquerait plus qu'ils disent le contraire ou qu'ils disent qu'on ne vous soutient pas avec tout ce qui se passe à Marseille. Ce qu'il dit, c'est très intéressant. Il a apporté des moyens. Déjà, les moyens sont... Il y a déjà eu 100 collègues qui sont arrivés. Il y a le matériel, il y a tout ça. On ne peut pas dire qu'au niveau travail des policiers, ce gouvernement et le ministre Darmanin est contre-productif. Et nous encourager et continuer, oui, parce que je vous le dis, hein, Pascal, à part nous, personne ne rentre dans ces cités. Si on commence à dire qu'on n'est pas motivé et qu'on lâche, qu'on va lâcher, non, c'est fini.
Il y a une mise en scène. J'ai vu par exemple que la cité de Bassins, elle avait été entièrement nettoyée pour l'arrivée du président de la République. Je le comprends, bien sûr, je le comprends. Mais j'aimerais qu'elle soit nettoyée tous les jours. C'est tout. J'aimerais que ce ne soit pas uniquement lorsque le président de la République vienne.
Oui, tout à fait, mais là, c'est plus la compétence de l'État au niveau du nettoyage. C'est plutôt les bailleurs sociaux, la mairie, la métropole. Quand le président arrive, c'est normal qu'on nettoie, on ne va pas non
bien
plus...
Bien sûr, je vous assure.
Et la mise en scène, c'est normal. Au déplacement présidentiel, il y a la sécurité, il y a raison de sécurité, tout ça. Mais bon, moi, ça ne me choque pas.
Est-ce que vous avez le sentiment quand même que ça peut bouger? Parce qu'on a tous dans l'oreille depuis 40 ans des ministres, Brice Hortefeux, Jacques Chirac, on l'a entendu d'ailleurs sur RTL, mais aussi Manuel Valls, Jean-Marc Ayrault, tous sont allés à Marseille, ont annoncé des choses et rien ne s'est passé. Par exemple, est-ce que vous pouvez me dire qu'il n'y aura plus de checkpoint dans une cité marseillaise dans 3 mois?
Ça, je ne peux pas vous l'assurer. Mais quand nous, alors ça, je peux pas vous l'assurer, mais nous, je vous le dis, on va certainement, on aura vraiment des instructions en ce sens, on les a déjà, mais je pense qu'on va accélérer les choses sur le démantèlement de ces checkpoints, mais on va pas le, nous, on va continuer à être sur le terrain. Et avec les nouveaux effectifs, on va être encore plus sur le terrain. Et ensuite, Pascal, qu'on interpelle, comme je vous l'ai dit récemment, après, c'est plus à nous, c'est à la mairie de venir, de déblayer.
Et puis c'est à la justice après de faire son job, bien évidemment, de sanctionner très fortement ce qu'elle ne fait pas toujours. Mais vous savez, le checkpoint, ça sera un marqueur, hein. Ça sera un symbole. Parce que les gens ont découvert ça. Même s'ils le savaient, c'est pas la même chose de le savoir que de le voir. De voir des gosses de 14 ans qui arrêtent des voitures, qui contrôlent les papiers. Et une fois que la voiture qui remonte une herse derrière, je pense que ce sera un marqueur de cette séquence.
Pascal, nous on le vit. Je vous le dis, non, je le dis. Moi, je l'ai fait, je l'ai croisé, j'ai intervenu, on a déjà forcé ces barrages. Ça ne nous empêche pas de rentrer, hein. Faut pas se leurrer, hein. Ça, c'est pas ça qui nous empêche. Il n'y a rien qui nous empêche de rentrer. Et personne ne nous empêchera de rentrer dans ces cités.
Bah, merci, Eddy. Merci. Voilà. On avait dit que vous nous rappelleriez, on s'était eu hier pour savoir si vous étiez plutôt satisfait de ce qu'a dit le président de la République.
Je pense, oui.
Manifestement, son discours et sa proximité aussi avec les policiers a été bien perçu. Maintenant, c'est clair que pour un homme politique, on attend des résultats. Il est 13h46. À bas, Damien Béchiot.
Vous parlez de la chanson, j'espère, Pascal.
Ah oui, pas à bas, Damien.
Ah, merci, j'ai eu peur.
Est-ce qu'on aura Éric Jean-Jean? Parce que ce soir, il fait un bonus track spécial.
Tout à fait.
Alors,
il diffusera
un événement.
Le nouveau single.
Je ne sais pas si vous voyez la portée de cet événement, quand même. D'abord, ils prennent des risques, forcément, parce que c'est la première chanson d'Abba depuis 40 ans. J'ai envie de dire, elle a intérêt d'être bien. Parce qu'on a entendu.
Elle a attendu, surtout.
Et Abba, c'était pas toujours chic d'aimer Abba. Moi, je me souviens dans les années 70, quand tu aimais Abba, c'est plus chic d'aimer les Stones, par exemple.
C'est différent.
C'est de la pop, Abba, c'est de la variétoche, comme on dit. Donc certains regardaient ça avec un peu de mépris. Donc ça sera bien d'échanger avec monsieur Jean-Jean. Je vois également l'excellent Jean-Alphonse Richard qui est là pour l'heure du crime, qui nous donnera le programme dans une seconde. Les consommateurs de drogue, on en parle. Faut-il les désigner du doigt, comme l'a dit hier Emmanuel Macron? À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Plessier, si vous êtes né en 85, 86, Laurent, vous n'avez pas connu la plume sergent-major. Moi, je dois être la dernière génération qui écrivait encore avec de l'encre violette. Et l'encrier, la maîtresse, mettait de l'encre dans l'encrier. Nous étions sur notre petite table.
Ah, le stylo est plus pratique.
Oui, mais moins romantique.
Mais vous êtes très romantique, vous aussi, c'est pour
non,
ça.
Non, mais c'était bien d'écrire avec aux plumes.
Oui, c'est vrai. Jean-Alphonse Richard aimait aussi, j'ai l'impression.
J'ai connu ça aussi.
Bien sûr, on doit être les derniers, nous.
J'ai planté ma plume dans l'épaule du voisin devant.
D'où votre
intérêt sympathique, Jean-Alphonse.
Déjà les tendances criminelles.
Que vous ayez terminé à l'heure du crime. Si effectivement vous tyrannisiez vos petits camarades, ça, c'est autre chose.
Tout s'explique.
Il est méchant. Il pouvait rien. C'est comme ça.
Allez, nous attendons évidemment au standard sur d'autres sujets. On ne lâchera rien dans la lutte contre le trafic de drogue. C'est la promesse d'Emmanuel Macron devant des policiers à Marseille. Le chef de l'État qui a eu ces mots très forts hier.
L'idée que dans certains quartiers, ce serait branché de prendre de la drogue pour que dans d'autres, on ait des jeunes qui se fassent tuer parce qu'ils la vendent ou surveillent, c'est terminé. Il faut que tout le monde comprenne dans notre pays que les consommateurs aujourd'hui de drogue sont des complices. De fait.
Les consommateurs de drogue sont des complices. Partagez-vous cet avis. Faut-il faire évoluer la loi ?
pour les considérer comme complices, oui, il faut faire évoluer la loi. Il y a une sorte d'abus de langage dans ce que dit le président. Les consommateurs sont peut-être complices dans les faits, mais ils ne le sont pas au sens légal du terme. Il y a peu de chances que le législateur, d'ailleurs, fasse évoluer les textes. Pour faire un parallèle avec la prostitution, par exemple, les clients ne sont pas considérés aujourd'hui comme des proxénètes.
On estime qu'il y a en France 5 millions de consommateurs, 900 000 fumeurs quotidiens de cannabis. Toutes les classes sociales sont concernées. Alors, faut-il parler de complicité? 3210, 3210 sur votre téléphone.
Guillaume Chies le disait, il n'y a pas de complicité sur le plan juridique, simplement sur le plan moral. Voilà une bonne question. Et on va la poser à Jonathan, puisque Jonathan est un petit consommateur, dit-il. Bonjour Jonathan.
Bonjour Pascal, bonjour à tout le monde.
Donc vous fumez ce qu'on appelle communément des pétards.
C'est ça, des joints même.
Des joints, bon, on va dire des joints, effectivement. Vous savez que j'ai jamais fumé un joint de ma vie.
C'est vrai ? Jamais. Même pas dans les années hippies, en écoutant Abba. Bah,
les années hippies, j'étais pas vraiment hippie, mais c'est fou d'ailleurs, parce que j'ai l'impression parfois d'être un extraterrestre. Bon, je n'ai jamais pris non plus de cocaïne, je ne sais même pas ce que...
Moi non plus.
Je ne sais pas l'effet que ça fait. Mais la question, elle est intéressante, Jonathan. Est-ce que vous avez le sentiment d'être complice des dealers? Et ce ne serait pas rien sur le plan moral, avec le trafic de la drogue derrière, lorsque vous fumez votre petit joint.
Alors pas du tout, pas du tout. Parce que déjà, il y a différents lieux où on peut s'approvisionner. Et en vrai, moi je ne m'approvisionne pas dans une cité. Et,
oui, mais peu importe, vous êtes d'abord dans l'illégalité, nous sommes d'accord.
Oui, ça je sais.
Bon. Comment vous l'achetez, ce joint, c'est du hash d'ailleurs? Je ne suis pas un spécialiste.
Non, moi je fume essentiellement de la beuh. Donc c'est là, cette plante, oui, c'est cette plante qui n'est pas retravaillée, et elle sort directement de...
Et vous l'achetez à qui, et quand, et comment?
Alors, je l'achète à des amis, qui la font eux-mêmes pousser chez eux.
Ah bon?
Tout simplement, oui.
Mais chez eux, c'est-à-dire dans un jardin, sur la terrasse?
À l'abri des regards, bien sûr, mais c'est un produit qui est fabriqué et conditionné ici, et... Et voilà, c'est comment expliquer sans trop dire de détails. C'est illégal, certes, mais c'est...
Et vous achetez ça combien, un joint?
Alors, je l'achète au gramme.
Et ça vaut combien?
Ça vaut 8 euros le gramme en ce moment sur le marché.
8 euros le gramme?
Oui.
Mais un joint, c'est combien de grammes?
Il y a moins d'un gramme, carrément moins d'un gramme. Avec un gramme, on peut arriver à faire 4 joints.
Ah bon?
Oui.
Mais qu'est-ce que vous mettez alors dedans, à part le gramme?
Avec du tabac. Je prends une feuille, je prends un grinder, je prends ma tête de cannabis que je grinde dans un moulin et je la ressors en petite poussière. Que je
mais là, vous me parlez chinois. Hein, le grind dans un moulin, tout ça, vous me parlez chinois.
Un grinder, en fait, c'est comme un moulin.
D'accord.
Comme un moulin à poivre.
Et vous en fumez combien par jour?
Je dirais que ça dépend de l'humeur du travail. Et déjà, c'est pas le jour, c'est le soir quand j'ai fini de travailler.
Mais par exemple, hier soir, vous avez fumé?
Oui, j'en ai fumé un.
Tous les soirs, vous fumez?
J'essaye de pas trop, mais j'y arrive pas, c'est plus fort que moi.
Donc c'est une addiction?
Oui, c'est une addiction totale. Autant que le tabac ou l'alcool pour certaines autres personnes.
Et depuis combien de temps?
Depuis longtemps. Depuis longtemps, mais
vous avez 32 ans,
passent,
c'est-à-dire depuis l'âge de l'adolescence?
Oui, déjà l'adolescence. Mais à l'adolescence, c'était plus dans l'excès et vouloir un peu faire comme les autres et puis se sentir fort et tout puissant.
Mais qu'est-ce qui se passe le jour où vous ne fumez pas?
Je me sens un peu plus stressé, un peu plus sur les nerfs.
Mais ça arrive parfois que vous ne fumiez pas?
Oui, ça m'arrive.
Vous êtes routier, hein?
Oui.
Donc
oui,
évidemment, vous ne fumez pas lorsque vous conduisez?
Du tout, c'est ce que je vous expliquais. Bon.
Ça
après
a dû arriver peut-être une ou deux fois, j'imagine. Vous êtes routier depuis combien de temps?
Je suis routier depuis l'âge de 22 ans.
Parce que là, les conséquences sont dramatiques parfois.
Je sais, j'en ai conscience.
Et dans votre vie amoureuse, ça peut poser des problèmes?
Non, du tout.
Donc les jeunes femmes, ou les jeunes hommes d'ailleurs avec qui vous étiez, je ne sais pas, n'ont jamais souffert qu'à côté à côté d'elle ou de lui, vous fumiez un joint?
Non, même en famille, ça m'arrive.
Vous fumez en famille?
Oui, ça m'arrive en repas de famille. Vu que je reprends pas la voiture ou c'est pas moi qui reconduis après, j'en fume un comme si quelqu'un aurait bu un troisième apéritif en fait.
Oui, mais ça peut incommoder quand même un joint.
Mais ça change pas forcément l'humeur de la personne.
Non, mais ça peut incommoder. Ça peut incommoder olfactivement, veux-je dire. C'est-à-dire que si vous fumez un joint à côté de quand quelqu'un mange une tarte aux fraises, ça peut être.
Ça, c'est sûr que ça peut être désagréable.
Ça peut être désagréable, mais bon.
C'est comme le tabac en lui-même, et je m'écarte de la table ou des gens avec qui je suis pour...
Bon. Bah, Jonathan, c'est passionnant de vous poser toutes ces questions. Restez avec nous. Monsieur Richard, je ne vous demanderai pas si vous avez fumé un joint ou pas. Ça
je
ne regarde
pas, monsieur.
Voilà, ça ne regardera pas les auditeurs d'RTL. Mais en revanche, ce qui les intéresse, c'est ce que vous allez dire à 14h30.
Alors, Pascal, écoutez, on est en plein dans l'actualité sur RTL, puisque la deuxième demande de mise en liberté de Cédric Jubilard a été refusée il y a quelques heures seulement. Et on fait une émission aujourd'hui sur l'affaire Jubilard. C'est un dossier qui manque a priori cruellement de preuves et d'indices. Pas de cadavre, pas d'aveu. C'est compliqué. Pourtant, Cédric Jubilard est bel et bien en prison. Il y reste. Ça a été confirmé ce matin par la cour d'appel. Donc on va faire le point avec les grands témoins, les avocats, savoir pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche exactement à Cédric Jubilard et quelle va être la suite. Parce que là, l'enjeu est de taille. Est-ce qu'on va pouvoir le tenir en prison comme ça très longtemps? C'est pas sûr.
Et c'est vrai qu'il y a un parallèle avec une autre histoire, forcément, à laquelle on pense quand on pense à l'affaire Jubilard, et peut-être même que ça a influencé le juge.
C'est-à-dire, vous...
L'affaire qui a été jugée, l'affaire Jonathan Deval.
Bien sûr.
Forcément, on se demande si...
Oui, l'affaire Deval, oui, bien sûr. Ouais. Elle a beaucoup pesé au début, en fait, ouais, de l'instruction. Elle pèse un peu moins aujourd'hui, puisque, effectivement, Deval, le contexte est différent. Puis, il a fini par avouer. Là, Cédric Jubilard, non, depuis le début, il est sur la même ligne. Je n'ai rien fait à Delphine.
13h57, histoire dramatique, rendez-vous à 14h30. Abba, je l'ai dit, non pas Abba d'Amien Béchiot, mais Abba.
Merci Pascal.
Ce groupe absolument magnifique, Abba, que nous aimons tant, sort, non pas un album d'ailleurs, mais un single. Et on l'entendra à 19h. Premier single depuis 40 ans. Vraiment, je suis très impatient. Impatient aussi d'écouter Agnès Bonfillon dans une seconde.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. RTL.
Il est 14h. Le flash avec Agnès Bonfillon.
C'est en fin d'après-midi qu'Emmanuel Macron dévoilera son plan pour Marseille depuis le palais du Pharaon. Il détaillera les différents volets de ce plan. Le président de la République sait qu'il n'est pas le premier à s'attaquer à ce chantier titanesque.
D'abord, je ne sais pas si ça marchera. Je vous le dis en toute humilité. Et donc, ce ne sont pas les milliards qui comptent. Je vous le dis très sincèrement. Ce n'est pas un plan pensé à Paris. Ce n'est pas les milliards qu'on va annoncer qui seront, d'ailleurs, on le sait, des additions qui viennent de partout. Parce que sinon, d'abord, les gens me diraient... Mettez-en dans ma ville, légitimement, un peu partout. C'est aussi regarder le fait que dans cette deuxième ville de France, collectivement, on n'a pas été à la hauteur en termes de prise de responsabilité collective. Et donc c'est aussi une autre forme d'organisation et de jalon de responsabilité que je veux poser ce soir. C'est une ambition et une exigence.
Une ambition et une exigence. Propos recueillis par Vincent Derosier. Sachez que tout à l'heure, dans RTL Soir, à partir de 18h, Julien Cellier recevra Jean-Luc Mélenchon, député des Bouches-du-Rhône. Il réagira à ce plan donc annoncé par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui n'exclut pas l'extension du pass sanitaire au-delà du 15 novembre dans les territoires sous forte pression épidémique. C'est ce qu'il vient de déclarer. Au moins 1000 mètres carrés détruits. Un incendie s'est déroulé la nuit dernière dans un centre de recyclage et de destruction de déchets métalliques à Clairoy, dans l'Oise. Le feu est en partie maîtrisé, mais les opérations pour l'éteindre complètement vont se poursuivre demain, voire samedi. Le sinistre, heureusement, n'a pas fait de blessés. L'homme qui a attaqué la semaine dernière le quartier des ambassades à Dar es Salaam, en Tanzanie, était bien un terroriste islamiste. Les enquêteurs expliquent que l'homme s'était radicalisé sur les réseaux sociaux. Avant d'être abattu, il a eu le temps de tuer 3 personnes. Un agent de sécurité privé et en a blessé 6 autres. La météo, demain, ciel toujours dégagé dans le nord du pays. En revanche, dans le sud, ça restera nuageux avec un risque d'averse. L'après-midi, le soleil résistera au nord de la Loire et dans le nord-est, ailleurs, le temps deviendra plus instable avec un panachage de grisailles, d'éclaircies et d'averses. Il est 14h03 sur RTL. Les auditeurs ont la parole. La suite avec vous, Pascal Praud, qui avait le micro pour mieux chanter du Abba, j'imagine.
Vous aimez Abba?
Oui, bah évidemment.
Ça, je pense, mais Éric Jean-Jean va me le confirmer, que Waterloo, c'est l'Eurovision. Et le groupe Abba avait gagné précisément avec ce titre Waterloo. Bonjour Éric Jean-Jean.
Bonjour, cher Pascal, et vous avez absolument raison. C'est avec cette chanson qu'ils ont gagné l'Eurovision. C'est d'ailleurs aussi la chanson qui va sceller le fait que ce soit un groupe. Vous savez qu'Abba, c'est quatre entités différentes, mais c'était déjà des vedettes en Suède avant de devenir Abba. C'est pour ça qu'ils sont déjà connus quand ça commence. Et ensuite, évidemment, il va y avoir Waterloo et puis le succès qu'on connaît dans les années 70. Donc vous aviez complètement raison, mon ami.
C'est quasiment 50 ans, hein, ce titre, hein, 74. Ouais. Alors, c'est un événement incroyable quand même. D'abord, c'est une surprise parce que je l'ai appris ce matin. Vous saviez que Abba sortait un titre ?
Alors oui, on savait, Pascal, et je peux même vous dire qu'il y a de fortes chances pour qu'on en écoute plus d'un. En fait, ce qui se passait, c'est que il y avait une tournée qui était prévue, qui était une tournée avec des hologrammes. Et donc, les quatre membres de ABBA, qui n'avaient pas chanté ensemble depuis des années, avaient commencé à se revoir, et puis commencé à travailler sur deux chansons qui devaient accompagner justement cette chanson qui sera cette tournée qui sera donc une tournée d'hologrammes. D'ailleurs, ils appellent ça non pas des avatars, mais des abatars. Et voilà, il y avait cette histoire. Et je pense qu'il y a peut-être même plus que deux chansons. En tout cas, ce qui est quasi sûr, on aura la confirmation à 19h, et Steven Bellery vous en parlera mieux que moi, mais ce qui est quasi sûr, c'est qu'il y a au moins deux chansons.
Bon, il y a une tournée qu'on peut imaginer revoir, par exemple, à Paris, un jour, à bas sur scène ?
Ouais, cher Pascal, mais vous ne les verrez qu'en avatar. Il est très peu probable que ça existe autrement parce que je crois qu'ils n'ont pas très envie de tourner. C'est à cause de ça que s'est arrêté le groupe. Hein. Rappelez-vous d'Agnetha, qui était la petite blonde, qui avait envie d'arrêter parce que elle avait ses enfants. Le succès, elle supportait pas bien. Donc c'est parce que la scène s'est arrêtée que le groupe a commencé à se désintégrer.
Oui, et il y a un documentaire qui passe régulièrement que j'ai dû voir 10 fois, moi, où on voit une équipe de télévision suivre Abba dans le monde entier. C'est un documentaire absolument formidable. C'est Fernando, je pense, ça, ce qu'on entend là.
Ouais, exactement. Vous savez, Pascal, les gens ne s'imaginent pas, mais dans la même durée de vie, alors je ne parle pas de après, hein, mais dans la même durée de vie, Abba a vendu autant de disques que les Beatles. C'est-à-dire que les Beatles, dans les années 60, ont vendu autant de disques que Abba dans les années 70.
Pas étonné,
c'est pour vous dire à quel point c'est colossal.
Mais je ne suis pas étonné, simplement, ce n'est pas chic d'aimer Abba. Ça n'a jamais été
ça
chic.
Le redevient, vous allez voir.
Oui,
ça,
maintenant, oui, mais à l'époque, je me souviens, tu pouvais aimer Supertramp, tu pouvais aimer Genesis, tu pouvais aimer les Stones, etc. Mais il y a un côté peut-être variétoche qui colle à Abba ou soupe, entre guillemets. Moi, je me souviens, à l'école, ceux qui aimaient Abba, c'était un peu les ringards. Quoi.
Ouais, mais alors, avec le recul, on s'aperçoit quand même que c'était de sacrés mélodistes. Hein,
je suis d'accord avec vous. J'écoute plus souvent aujourd'hui Abba que les Stones. Hein. J'ai plus de...
Alors, pas moi.
Mais non, mais c'est vrai, c'est la réalité, parce que pour la raison que vous venez de dire, ce sont des mélodies absolument formidables.
Ouais, ce sont des sacrées mélodies. Mais aussi parce que, vous savez, quand vous êtes à la mode, vous êtes obligatoirement démodé. C'est ça qu'il faut savoir dans la musique. C'est-à-dire que Abba a tellement été à la mode que forcément, à un moment, ils ont été démodés.
Ils jouent gros quand même, hein, parce que si le titre n'est pas réussi, dites non, c'est un risque absolument incroyable. Alors, personne ne l'a entendu.
J'ai pas le droit de le dire. Mais,
vous le connaissez le titre ?
Je sais de quoi ça parle. J'ai pas le droit de dire quoi que ce soit.
Ah ben c'est bien. Si vous n'avez pas le droit, il faut respecter.
Il y a des accords de confidentialité, voilà. Mais vous allez retrouver tous les codes de là-bas.
Hein, mais ça va être bien. On va pas être déçu.
Non, vous serez pas déçu. Je pense pas qu'on va être autant. En fait, ce que ça va être, c'est un énorme événement. Parce que d'ailleurs, on en parle dans les infos généralistes. Et vous êtes en train de le faire. Donc ça va être un énorme événement. Après, musicalement, je sais pas si ça va être l'album du siècle. Mais en tout cas, les gens qui aiment Abba vont adorer retrouver ces quatre-là.
Bonus track ce soir. On va poser la question à tous les auditeurs. Quel est le titre que vous préférez d'Abba ? Et je vous le pose à vous. Quel est le titre que vous préférez d'Abba ?
Non, je sais pas, mais j'aime bien ma mamie qui est en train de passer parce que c'est tellement festif. Il y avait ce film derrière qui était génial, la comédie musicale. Je trouve qu'il y a un truc très gay chez Abba. D'ailleurs, ce soir, dans Bonus Track, je vous le passe, hein, le nouveau Abba.
Ah bah, j'espère que vous le passez. Hein, vraiment. Promis. Bon, bah écoutez, merci Eric Jean-Jean. C'était un plaisir. On va poser la question à tous les auditeurs. Quelle est la chanson d'Abba que vous préférez après une pause? À tout de suite.
À 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier.
On peut parler de la rentrée ratée des Bleus hier soir. Match nul, un but partout contre la Bosnie-Herzégovine à Strasbourg. Une rencontre dans le cadre des qualifications mondiales 2022. L'équipe de France a-t-elle du mal à se remettre de l'euro? La défense vous inquiète-t-elle? Allez mal, l'image de Jules Koundé exclut rapidement seconde période. La réaction de l'attaquant Karim Benzema, c'est un document RTL M6 de Philippe Sanfourche.
Pour une rentrée, on aurait aimé gagner ce match-là, plus un match en France devant notre public. Mais bon, on sait que les matchs sont difficiles, on sait que les équipes nous attendent. Donc voilà, il faut continuer à travailler, rien n'est acquis. Et c'est, aujourd'hui, on a fait un match nul, on prend quand même un point et il reste encore deux matchs, il faudra prendre un maximum de points.
Que doit faire Didier Deschamps? Est-il pour vous toujours à la hauteur? Ce n'est pas un sujet pour Karim Benzema.
Comment on peut douter d'un sélectionneur comme Didier Deschamps? Je pense qu'il a démontré dans le passé et il le démontrera encore dans le futur que c'est un grand sélectionneur.
Eh bien, nous attendons vos avis dès maintenant au 32-10, 3-2-1-0 sur votre téléphone.
Ah bah va donc ce soir dévoiler son dernier titre et il y en aura peut-être deux, nous a dit Eric Jean-Jean. Il y a une seconde. Et on est avec Benoît qui habite les Hauts-de-France. Benoît, est-ce que vous êtes un fan?
Oui, je suis là.
Est-ce que vous êtes un fan de ABBA?
Ah oui, ouais, je suis un fan. J'étais même à Stockholm, aller sur les traces d'ABBA.
Non. Et alors, ça veut dire quoi, être sur les traces d'ABBA? Ça se matérialise comment?
J'ai été au muséum d'ABBA à Stockholm, qui a été ouvert en 2013.
Et qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on y trouve?
On voit les bottes, déjà à l'entrée, on voit les bottes d'ABBA, avec marqué ABBA. Et à l'intérieur, on voit les costumes et on voit les clips de chez ABBA. Mmh. C'était génial. Et on a même pu aller visiter là où ils enregistraient leurs albums, en fait. C'était génial, franchement, ouais. Et quand on va dans les pubs, on voit les images d'ABBA, on entend les musiques d'ABBA. Mmh. Franchement, en Suède, c'est vrai qu'à Stockholm, ils sont fans d'ABBA comme nous, Johnny, en France, en fait.
Non, mais c'est tellement exceptionnel, les mélodies d'ABBA. Je regardais dans la playlist qui est la mienne, j'ai Thank You for the Music. Je ne sais pas si vous connaissez ça, cette chanson.
Je crois que c'est celle que quand elle parle avec la séparation de son compagnon qui était du groupe d'ABBA.
Voilà, elle est formidable, Thank You for the Music. Et je suis sûr que Damien nous la fera écouter. Il y a I Have a Dream, bien sûr, qui est formidable. Et il y a Dancing Queen. J'aurais dû mettre Fernando également, que j'aime beaucoup. Quelle est la chanson que vous préférez? Vous, Benoît?
Moi, Money.
Ah, c'est pour le message ou c'est pour la mélodie?
Pour la mélodie et puis le thème. Mais je crois que j'ai un doute sur les chansons qui vont être diffusées ce soir à 19h.
C'est-à-dire?
Parce qu'en 2018, ils avaient enregistré deux titres qu'on n'a jamais entendus parce que ça a toujours été reporté.
Et vous les connaissez, ces deux titres?
Alors, ça serait I Still... je suis pas très bon en anglais, excuse-moi. Mmh. Mmh. I still alive. Oui. Non, in you. Et le deuxième, ce serait Don't Shut My Door.
Bah écoutez, on va attendre, c'est 19h, mais c'est un vrai événement, hein. Franchement, c'est un véritable événement.
Moi, je suis fan, hein. Je peux dire, je suis connecté sur le compte à rebours là, de ABBA Voyage. Je sais que dans exactement 18h45, parce que c'est 18h45 qui sort, oui, je vais être dessus.
Regardez cette chanson, quoi, écoutez plus exactement.
Ah oui, oh là là.
Thank you for the music. Il y a de l'émotion chez ABBA.
C'est un groupe génial, quoi. Moi, quand j'étais à Stockholm, et même là-haut, quand je vois l'ambiance, c'est comme nous, Johnny, quoi. Voilà, ABBA, en Suède, c'est ABBA, quoi.
Bah merci vraiment Benoît. Catherine est là, bonjour Catherine.
Bonjour Pascal.
Vous êtes fan?
J'adore. c'est ce que j'expliquais à votre collaborateur. Moi j'étais ado durant les années d'ABBA, donc moi depuis le début j'ai toujours aimé ABBA. Ça m'a jamais gêné de dire que j'aimais ABBA et que j'étais très fan. Mmh. Sans forcément les avoir vus en concert ou autre, mais par contre l'anecdote... qu'on a reprise avec mon mari quand je me suis mariée pour une deuxième vie. On a ouvert notre mariage avec ABBA et Dancing Queen, avec une chorégraphie. Et puis, assez improvisée parce qu'on n'avait pas eu le temps de la bosser assez. Donc voilà. Et puis, c'est resté. J'étais à Londres voir la comédie musicale. J'ai vu le film en anglais aussi parce qu'en français, je n'aime pas les chansons traduites en fait. Je fais surtout dans ce genre de contexte. Je trouvais pas ça très, très heureux. Et voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui.
Ça, c'est magnifique. Mais quelle chorégraphie vous aviez fait avec votre mari pour le mariage? Racontez-moi.
Ah ben, c'est totalement improvisé parce qu'on n'avait pas eu le temps de la travailler. On aurait pu faire ça avec, avec nos amis, filles et garçons qui étaient disponibles. Enfin, bon, c'était assez que c'était un mariage international en plus. Donc, il y avait beaucoup de monde. Mmh. Et du coup, le temps de retrouver suffisamment de personnes disponibles pour pouvoir travailler quelque chose, c'était un peu compliqué. Mais on s'en est sorti, on a fait quelque chose, ça a plu. Et puis, à la fin de la musique, d'ailleurs, on avait pris tous les invités et puis c'est parti, et le mariage est parti comme ça en fait. Donc on a ouvert le bal bien plus tôt que prévu, mais c'était un peu fait exprès aussi, donc voilà. C'était bien.
On va marquer une pause, mais depuis qu'on passe à bas, il y a beaucoup de monde dans la régie et je vois des mouvements, des corps se déhancher, se rapprocher, non parce que les gestes barrières sont là, mais je vois quand même une certaine effervescence dans cette régie. Je vois notamment Olivier qui est a enlevé son t-shirt et qui est en train de danser fortement sur son tabouret. En même
c'est
temps,
légèrement gênant en plus.
C'est un peu gênant, je suis assez d'accord, Damien Béchiot. Mais c'est un fan d'ABBA, il n'était pas né quand le groupe s'est arrêté, je pense. Mais tout cela n'est pas très grave, car ABBA est de toutes les époques. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Il n'y a plus de musique ?
Je pensais que...
Fernando. Marie-Jo.
Oh, bonjour Pascal.
Bonjour Marie-Jo. J'imagine que si vous nous appelez, c'est parce que vous êtes une fan absolue.
Ouais, moi, j'étais une inconditionnelle de ABBA. J'ai découvert ça, j'étais encore jeune, j'avais 25-26 ans. Mmh. Je venais de me marier, je venais d'avoir des enfants. Donc voilà, puis je suis tombée amoureuse d'ABBA et j'avais une cassette que je trimballais partout, dans mon sac, dans ma voiture, dans la salle de bain, dans la cuisine. Et je la changeais régulièrement parce qu'elle finissait par casser à force d'être écoutée. Et encore aujourd'hui, quand des fois j'ai un petit coup de blues ou que j'ai envie de me faire une petite après-midi musique, comme j'ai plus de lecteur CD, je vais sur YouTube, je cherche ABBA et en avant la musique, je fais une après-midi ABBA. Voilà.
Take a chance on me. Oui. Dites-moi, Marie-Jo, est-ce que vous les avez vus en France?
Non, j'ai jamais eu cette chance-là. Non,
mais ils
non,
sont
non.
passés, moi j'étais jeune à l'époque, peut-être. Est-ce qu'il y a eu des grands concerts en France? J'ai oublié de poser la question tout à l'heure à Eric Jean-Jean, mais je pense pas qu'il soit passé au Parc des Princes ou dans un stade. À l'époque, c'était pas forcément la mode en plus. Mais ils ont dû passer très certainement, France. Mais j'ai, à l'Olympia, je suis pas sûr que.
Je m'en souviens pas. Parce que c'est loin pour moi tout ça.
Quel est le titre que vous préférez?
Alors, moi j'aime bien Chiquitita, mais j'aime bien I Have a Dream aussi. Ça c'est un titre que j'écoute souvent aussi.
Eh bien, on va vous faire plaisir, peut-être on va écouter quelques notes de musique d'I Have a Dream.
Oui.
Marie-Jo, vous attendez avec impatience peut-être
ce
titre.
Oui, je vais aller écouter cette chanson.
À 19h, alors oui. Évidemment l'attente est forte, j'espère qu'on ne sera pas déçus, peut-être qu'on va rester sur notre faim. Je ne l'espère pas, mais en tout cas, c'est à 19h ce soir. Magali est là également. Bonjour Magali.
Oui, bonjour.
Je remarque quand même, il n'y a que des femmes qui appellent pour ABBA. Je ne sais pas si le public est plus féminin ou pas pour ABBA qu'il n'est. Ça, c'est I Have a Dream. Ça, c'est Marie-Jo. Ça, c'est I Have a Dream. Marie-Jo.
Oui, je suis là. Moi, c'est Magali.
Oui, mais je reviens à Marie-Jo parce qu'elle nous disait que son titre préféré, c'est I Have a Dream. Et Damien Béchiot nous le propose à l'instant. Écoutons. When I know the time is right for me, I have a dream. I have a dream. Il y a un côté grec en plus dans cette chanson.
Oui,
oui. Hein, dans l'orchestration. Oui. Magali, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors.
Vous m'entendez bien?
Je vous entends très bien, Magali. Vous nous appelez d'où?
Alors, moi, je vous appelle de Seine-et-Marne.
Bon, et vous écoutez tous les jours du ABBA?
Ah non, pas tous les jours, mais chaque fois que j'en écoute, c'est les souvenirs qui reviennent. Et je suis très heureuse chaque fois que j'écoute ABBA. Ce que je disais à votre standardiste, moi, j'ai découvert ABBA toute petite, hein, j'avais 6 ou 7 ans. Parce que, voilà, j'ai 50 ans cette année, au mois de juin, là, j'ai eu 50 ans. Et en fait, j'ai un souvenir précis où j'allais chez ma copine le samedi. Ses parents étaient très disco, donc ils nous mettaient la chaîne IFI à fond. On dansait sur Gimme Gimme. Et la maman de ma copine, Christelle, que j'embrasse au passage, passait l'aspirateur sur Gimme Gimme et c'était super. J'en ai des super bons souvenirs et ça, c'était en 77, par là, ou 78.
Est-ce que vous avez un titre que vous préférez ?
Eh ben, Gimme Gimme.
Ah bah, ça tombe bien, parce que c'est, j'ai l'impression que c'est celui-là qu'on est en train de, d'entendre.
Oui, c'est ça.
On n'a pas entendu, je pense, Knowing Me, Knowing You, depuis le départ, qui est un titre également célèbre. Alors, vous avez parlé de 1977, et ça, c'est quasiment le pic de la carrière d'ABBA, hein, dans les années 60.
Bah moi, j'avais 6 ans en 77, donc vous voyez, j'étais vraiment toute petite, et c'est resté des souvenirs d'enfance gravés. Où effectivement voilà, de l'insouciance, de la joie, et effectivement ABBA, ça procure de la joie en fait. On se met vite à danser et on oublie tout.
Vous vous rendez compte qu'en août 82, les membres d'ABBA effectuent leur dernière séance d'enregistrement et seules 6 chansons seront enregistrées. Donc il n'y a rien eu depuis 40 ans, et en février 81, Annie Fried et Benny divorcent à leur tour, hein, alors que le premier couple avait divorcé. Donc c'est aussi une des raisons sans doute qui a fait qu'ABBA s'est arrêté, c'est que les couples, c'était difficile une fois qu'ils avaient divorcé sans doute de chanter ensemble. Ça c'est superbe ça. Et oui, ces mélodies sont absolument formidables. La dernière apparition publique à la télévision, c'est le 11 décembre 1982. Et depuis, donc, on vit de souvenirs, mais comme le disait je ne sais plus qui, nos souvenirs sont nos meilleurs compagnons.
Alors c'est marrant parce que pendant que je vous parle, il y a Christelle, mon amie d'enfance, qui a dû écouter la radio et qui est en train de me faire un double appel. Parce que elle a dû entendre ça aussi.
Mais on
à
la
mon
salue,
avis.
On la salue, Christelle. Elle nous écoute, ça ne nous étonne pas. Parce que la France entière nous écoute à cette heure-là. Donc, Christelle et Magali, vous aviez 10 ans, vous chantiez, vous dansiez l'après-midi.
On avait 6 ans, on n'avait pas 10 ans, on avait 6 ans.
C'est formidable. Ben voilà, ben une chanson, de toute façon, une chanson, il n'y a rien qui te replace dans une époque comme une chanson. C'est immédiat, plus qu'un livre, peut-être plus qu'un cinéma. Merci Magali.
Oui, ça me replonge complètement.
Mais merci, attendez, moi je suis prête à pleurer, Magali. Donc, Je crois que je vais écouter ça toute la journée. 14h25. Le débrief.
Allons-y.
On n'a pas parlé de foot, mais c'est pas grave.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Tout avait pourtant bien démarré dans l'émission. Tout partait des propos d'Emmanuel Macron hier à Marseille.
Il faut que tout le monde comprenne dans notre pays que les consommateurs aujourd'hui de drogue sont des complices. De fait. Get up, stand
up. Et là, en studio, l'ambiance a clairement changé. Peut-être la faute de la climatisation. Vous lancez Pascal dans une magnifique interprétation.
On se souvient bien évidemment de nos premiers jours d'école, odeur des pluies de mon enfance, dernier soleil de la saison à 7 ans comme il faisait bon, après d'ennuyeuses vacances, se retrouver dans sa maison, la vieille classe de mon père pleine de guêpes écrasées, sentait l'encre, le bois, la craie, ces merveilleuses poussières amassées.
Ce message est merveilleux. Et on trouve aussi des petites annonces publicitaires déguisées dans l'émission.
Essayez, Olivier, celle d'adopter.
Oh.
Et vous allez l'aimer, chers auditeurs.
Des questions pertinentes également.
En quelle année est né le seigneur Laurent Tessier?
83, 84, 85.
Oh non, mais vous venez de me vieillir. 1986, a mis la bonne réponse. L'année. Et puis, Mamma Mia, revoilà là-bas. Et là, Pascal, vous lancez un appel au standard.
Ah ben,
bah Damien Béchiot.
Ah bah Damien Béchiot quand même, dites donc. Doucement, Amy, une réaction Damien.
Vous parlez de la chanson, j'espère, Pascal.
Ah oui, pas à bas d'abord.
Ah, merci, super.
Ouf, nous voilà rassurés. Mais Julien Courbet, j'ai l'impression à respirer le même air que nous, apparemment.
Oui, le pareil. Groupe Abba, ça, c'est extraordinaire.
J'adore les Abba, surtout avec oui. De la moutarde. Allez-y. Ouais.
Vraiment, vous voudriez monter sur scène, je le répète. Merci, cher Julien.
Et là, je peux vous dire qu'on ne tient plus personne.
Olivier qui est a enlevé son t-shirt et qui est en train de danser fortement sur son tabouret. En même
c'est
temps,
légèrement gênant en plus.
C'est un peu gênant, je suis assez d'accord.
Alors on imagine, Jean-Alphonse Richard, sinon, comment êtes-vous devenu présentateur de l'heure du crime ?
J'ai planté ma plume dans l'épaule du voisin devant.
Eh bien, très charmant. Un dernier mot, Pascal ? Bon, allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la vraie version, l'original.
C'était formidable cette émission. Vraiment, merci à tous. Et l'ami Jean-Alphonse Richard dans une seconde.
On arrive.